session sur la personne humaine par le Père Marie-Dominique Philippe, le 30 juin 2002 à Saint-Judard.
Je voulais, dès ce soir, vous saluer, vous dire qu'on est très heureux de vous recevoir ici, et puis vous expliquer un peu, parce que c'est assez particulier. On fait une retraite, pas une retraite, on fait une session philosophique dans un monastère. Alors, notre vie monastique continue. Nous avons l'habitude, avant tous les cours, d'invoquer le Saint-Esprit, d'invoquer la Sainte Vierge. Ce soir, nous dirons le Salve Regina. Mais nous distinguons bien, et il le faut, le point de vue philosophique. Je ne vous ferai pas de la théologie, ou bien peut-être que le soir, j'en ferai un peu. Mais je vous dirai, pour que vous-même, vous puissiez bien distinguer le point de vue philosophique et le point de vue croyant. Être croyant ne supprime pas notre intelligence, bien au contraire. Être croyant dans le Christ nous donne une liberté intellectuelle de recherche de la vérité. Le Saint-Père le montre très bien dans une encyclique qui est parue il y a 2-3 ans. Foi et raison. Et le Saint-Père montre que tout chrétien, aujourd'hui, tout chrétien, devrait avoir un peu de philosophie, savoir éveiller notre intelligence. Au fond, la philosophie, c'est éveiller notre intelligence. Notre intelligence est faite pour la vérité. Elle est faite pour comprendre nos expériences humaines, les comprendre profondément grâce à la réflexion philosophique. Donc, la foi du chrétien, loin de supprimer la philosophie, devrait au contraire la réveiller, l'exiger. Pour être un vrai croyant dans le monde d'aujourd'hui, peut-être une carmélite n'a peut-être pas besoin de faire de philosophie. Peut-être, je dis peut-être, j'en suis pas sûr. J'ai reçu l'autre jour une lettre d'un Carmel de Pologne, la supérieure me disant combien elle était heureuse du passage d'un frère qui avait fait pendant 8 jours uniquement de la philosophie, 5 heures par jour. Dans le Carmel. Et c'était de la vraie philosophie, de la vraie réflexion. Oui. Autrement dit, les carmélites, peut-être, commencent à s'ouvrir à la nécessité de la philosophie dans notre monde d'aujourd'hui. Parce que quand Sainte Thérèse a fondé le Carmel, les jeunes filles n'avaient comme éducation que dans la famille. Savoir faire la cuisine, coudre, laver, tout ce qu'une bonne mère de famille fait et doit faire. Et on éduquait comme ça. Donc surtout pas de faire philosophie, ça n'a rien à voir avec leur vie. De sorte qu'elles continuaient d'être très pieuses, de savoir lire l'Évangile, d'aimer l'Évangile, mais en dehors de là, pas grand-chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, les religieuses sont là, voilà. Et elles ne sont pas des vieilles religieuses. Et elles aiment de s'éduquer à la philosophie, sachant très bien que par la philosophie, on devient plus intelligent. C'est agréable, dans la vie commune, de parler à des gens intelligents qui s'intéressent à ce qui est intelligent, qui cherche à comprendre, plutôt que dire ah, ça, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. La philosophie s'adresse à l'homme. Et s'adressant à l'homme, tout ce qui intéresse l'homme intéresse la philosophie. Tout ce qui intéresse l'homme. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de la philosophie exactement de la même façon que Platon, 400 ans avant Jésus-Christ, à Athènes. Mais notre intelligence n'a pas beaucoup changé. Les moyens de locomotion ont changé énormément. Mais les baleines n'ont pas changé. La mer est restée la même. Parce que on racontait cette histoire de la mer Égée est quelquefois très dangereuse. Alors on indique pour tous les voyageurs ne pas se baigner. Parce que les baleines s'approchent et les requins. Alors, on m'a raconté le fait que je suis arrivé un mois après, moi, à Athènes. Alors, c'était tout un événement. On avait défendu de prendre un bain à Athènes même, dans la mer Égée. Puis quand il fait très chaud, c'est quand même agréable de se jeter dans l'eau. Hein. Alors, c'est bien. C'est bien pour les enfants, comme ça. Alors, ils se sont quand même baignés. C'est étranger. On leur a dit, non, ne faites pas. Les requins sont pas loin. Les requins, on les verra. On aura le temps de s'enfuir. Puis, en effet, les requins ont senti la chair humaine. Ils aiment bien la chair humaine. Alors, ils ont approché. Ils n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Déjà, les requins étaient là. Alors on m'a dit, je ne l'ai pas vu heureusement, qu'un requin avec sa queue, ils ne sont pas bêtes, hein, avec sa queue, a donné un coup à l'homme, la chair humaine qui était là, l'a lancé en l'air au moins 10 mètres. Et puis il était là, la gueule ouverte, pour le recevoir. Et c'est ce qui s'est passé. Évidemment, il n'y avait pas moyen d'échapper. Il faut qu'on ait dans la gueule d'un requin. Ça ne bouge pas. Je crois que Les requins sont aussi méchants maintenant qu'ils l'étaient 400 ans avant Jésus-Christ. Ils n'ont pas été baptisés. Et ceux qui sont autour de la mer Égée sont peut-être moins prudents que du temps d'Aristote. Aujourd'hui, on croit que les animaux obéiront. Non. C'est très vrai que les difficultés de faire de la philosophie sont différentes aujourd'hui et du temps d'Aristote. Ça, c'est sûr. Mais il y a quand même beaucoup de ressemblances. On retrouve toujours les mêmes erreurs et le même effort de recherche de la vérité. Alors c'est vrai, j'aime beaucoup Aristote, j'aime beaucoup Platon. Ce sont des grands génies qui restent des gens très intelligents. Et vivre avec des gens intelligents, ça nous rend intelligents. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et c'est vrai, un Aristote, c'est pas moi seulement qui le dis, Hegel, un philosophe pratiquement contemporain, 100 ans de nous, Hegel, dit ouvertement, le seul philosophe, c'est Aristote. Et lui-même se met à l'école d'Aristote à sa façon. Parce que on se met toujours à l'école de quelqu'un à sa façon, si on est vivant. On l'assimile différemment. Et pour vous montrer que Aristote était en France assez rejeté, parce que la France n'est pas commode à devenir philosophe. Alors, et actuellement, on revient à Aristote, parce qu'en Angleterre, parce qu'en Allemagne, on revient beaucoup à Aristote, à Platon. On s'aperçoit que ces gens-là sont des géants qui nous donnent quelque chose de très important. C'est pour ça que être dans l'esprit d'Aristote, c'est ce que nous essayons ici. On ne copie pas Aristote, c'est évident. On ne peut pas copier Aristote. On ne le copie pas, mais on s'inspire de lui et on cherche à comprendre ce qu'il a compris. C'est déjà bien, ça. Alors, c'est vrai, je ne m'en cache pas, Aristote est pour moi un grand philosophe, un maître. Et ce maître à son école, c'était beaucoup. Ça nous permet de comprendre toutes les erreurs qui peuvent se dire. Parce que, pour Aristote, l'intelligence humaine était faite pour chercher la vérité. Et l'intelligence humaine devait se reposer uniquement quand elle atteint la vérité. Autrement, elle reste dans la dialectique. Les opinions des hommes. Et quand on est dans les opinions des hommes, ça varie tout le temps. Mais les opinions des hommes n'est pas la philosophie, c'est le journalisme. Un journaliste, on lui demande de donner son opinion, c'est pas plus que ça. C'est rarement, quelquefois, mais c'est pas toujours la vérité. surtout pour des événements actuels. La recherche de la vérité. Je me souviens, la recherche de la vérité, c'était Beuve-Méry a été le directeur du journal Le Monde pendant de nombreuses années. J'étais à Fribourg, on avait annoncé conférence par Beuve-Méry. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? Alors je me suis dit, ça, je vais y aller. Ça m'intéressera beaucoup de voir un grand journaliste d'un grand journal expliquer ce que c'est que la vérité. Alors je me suis mis juste là en place, même là, premier rang, en face de lui, pour tout avoir et pour qu'il me parle. Un conférencier, si on le regarde beaucoup et qu'on est juste en face de lui, au bout d'un certain temps, il vous parle. Si vous gardez cette place-là juste en face de moi, alors je vous parle. Et en parlant pour tout le monde. Et il a tout de suite commencé dans cette ville où les dominicains enseignent, chercher ce qu'est la vérité. C'est évidemment quelque chose de particulièrement difficile et important. Alors, si vous voulez, je précise tout de suite. Je dis, qu'est-ce que c'est que la vérité pour le journaliste ? Donc il n'a pas dit chercher la vérité pour le chrétien, pour le journaliste. Un journaliste cherche la vérité. Deux journalistes. Alors il a fait une conférence extrêmement intéressante parce qu'il nous a montré son métier. Alors il a dit, quand il y a un grand événement important, on se fait une petite idée de cet événement. Et puis on va sur les lieux et on voit si l'idée qu'on s'est faite est vraie, conforme à ce qu'on a pensé. Et on fait un article alors en disant on s'est rendu sur les lieux, qu'on a cherché à comprendre, puis on essaie d'expliquer, on essaie de dire ce qu'on est. Vous voyez, la vérité consiste à ce que la pensée du journaliste est vérifiée par les événements. Saint Thomas disait la vérité, c'est lorsque nous pensons comme les événements existent et nous disons ce que nous avons compris de ces événements. Donc c'est juste inverse. Et c'est ça qui était très intéressant. Alors je comprends qu'il me regardait avec intérêt, mais j'essayais de ne pas réagir, de tout recevoir, tout écouter. Mais je n'en pensais pas moins, puisque c'est comme si j'y étais, alors qu'il y a 30 ans de ça, 35 ans, 40 ans. Qu'on fasse de la philosophie dans un milieu religieux, c'est l'avantage, c'est que c'est plus calme, le milieu religieux. Or, faire de la philosophie, ça demande un peu de calme. Et puis, si on est chrétien, c'est très bien, on prie, on invoque le Saint-Esprit. Si on n'est pas chrétien, on fait l'expérience d'un milieu religieux. C'est bien, dans sa vie, c'est très bon de faire ça. Et on essaie de voir qu'un religieux est religieux pour prier Dieu, pour prier Jésus, pour prier Marie. Il est religieux par charité fraternelle pour tout le monde. Mais dans sa recherche humaine, Il veut être philosophe. Philosophe, c'est-à-dire philosophia, l'ami de la sagesse. Le philosophe veut être un ami de la sagesse. Il doit chercher ce qu'est la sagesse. Pas uniquement la science, ce qu'est la sagesse. Je ne vous dis pas maintenant ce que c'est. J'espère que progressivement, vous verrez la différence entre la science et la sagesse. La sagesse n'a pas d'âge. Mais on réfléchit sur ses expériences. Ce sont les expériences humaines qui sont l'objet sur lequel on réfléchit. Alors, nous allons prendre pendant ces quelques jours un sujet très actuel. Aristote ne parle pas de la personne. Oui, il en parle. Mais prosopone, le mot personne, c'est le masque de l'orateur, du comédien. Les comédiens, selon le théâtre grec, ils se recouvraient la figure d'un masque. Et le masque représentait le rôle qu'il devait jouer. Il y avait le père, le guerrier, l'orateur. L'homme vertueux. On jouait un rôle. Le mot « personne » est arrivé petit à petit, c'est très curieux. Ce serait très intéressant de regarder l'histoire du mot « personne ». Prosopone, en grec. Histoire du mot « personne ». Au fond, au Moyen-Âge, on commençait à en parler. Les théologiens sont les premiers à en parler. Le mot « personne » est né en théologie. En disant que Dieu est une personne. Et que dans la très sainte Trinité, le dogme chrétien, il y a un seul Dieu et trois personnes en Dieu. Et donc, ils sont trois personnes et un Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Voyez, le mot personne, en théologie, a dû tout de suite intéresser beaucoup les chrétiens. Il y a eu le mot nature. J'ai une nature humaine. Mais je suis une personne unique. J'ai la même nature que vous, la nature humaine. C'est pour ça qu'on peut se parler. S'il y avait quelqu'un au milieu de vous qui a une nature différente, hein, je ne sais pas, le canard, il serait difficile de lui parler. Ils ont leur langage entre canards. On essaie de le capter. Et quand vous voyez des canards, vous essayez d'imiter leur cri. Et si vous avez le don d'imiter très bien leur cri, ils répondent. Et on les appelle, comme ça, ils viennent. Parce qu'ils croient rencontrer un canard. Et quand ils sont à côté de vous, comme ce n'est pas un canard, ils vous regardent, gardant leur distance, et la conversation est très vite faite. la nature, c'est quelque chose de très particulier. On a une nature humaine faite d'une âme et d'un corps. Ah ! Il y a en nous quelque chose de spirituel, et puis en nous, quelque chose de matériel, notre pauvre corps. Les animaux n'ont qu'une nature. Ils n'ont pas de personne. La vache, elle n'a aucune personnalité. Non. Elle vit d'instinct. Les animaux vivent d'instinct. Ils sont très déterminés. L'homme a des fantaisies. Tiens, tiens, c'est comme ça que vous commencez à être une personne. C'est d'avoir des fantaisies. Le petit gosse, la petite fille, qui commence à marcher, qui commence à regarder, elle fait des fantaisies. C'est-à-dire, quand vous voulez dire par là, quand vous voulez lui parler, alors qu'elle ne vous connaît pas, elle se cache dans sa mère. Un petit animal fait pas ça. C'est curieux que le premier geste de la personne, c'est de se cacher. C'est à cause du péché, selon l'Écriture. Adam s'est caché après son péché, pas avant. On se cache, on a peur. On se cache, on a peur. Un petit animal, il a peur. Si vous ne savez pas l'appeler, mais si vous l'appelez avec son petit cri, il écoute, il vient tout de suite. Ou si vous avez une carotte, un chat ou un chien, une carotte pour un chat, ça ne va pas très bien. Mais ça ne fait rien. À Berne, on a des carottes pour les ours. Et c'est très déterminé. Il n'y a pas de fantaisie. Ils n'attendent pas le dessert. Non. Quand ils ont faim, ils mangent. Et ils mangent l'herbe qu'on leur donne. Ils mangent le foin qu'on leur donne. Tout ce qu'ils peuvent manger. L'homme, il a des desserts. C'est quand même curieux, ça. Un peu de fantaisie. Pas brouter la salade comme les vaches. Il aime les choses un peu surfaites. Et il invente tout le temps. Un bon cuisinier invente tout le temps. Et un maître coq sait très bien que les desserts peuvent s'inventer à l'infini, d'une certaine manière. Oui, la fantaisie. Au fond, la première marque d'une personne, c'est la fantaisie. Quand vous voyez un petit garçon, une petite fille qui commence à voir, tiens, sa personnalité commence à paraître. Or, il faut se dire que la philosophie grecque, la vieille philosophie grecque, avant Jésus-Christ, n'a pas parlé de la personne. La philosophie européenne a commencé à partir de la théologie. Nos ancêtres sont des théologiens. Et petit à petit, ces théologiens ont voulu penser par eux-mêmes. Ils sont devenus des philosophes. Alors, on voit apparaître le désir de préciser qu'est-ce que c'est que la personne. Qu'est-ce que c'est que la nature ? vous avez en vous une nature et une personne et une certaine personnalité. Ah, c'est pas encore la même chose, hein. Et au fond, la personne a pris un très grand développement dans la philosophie. Un très grand développement. C'est pour ça que si, dans la philosophie aristotélicienne, la nature et l'intelligence ont tout pris, il touche la personne humaine, mais n'en parle pas. C'est à partir du christianisme, donc à partir des théologiens, que le mot « personne » a pris une très grande importance. Tout simplement à cause du dogme chrétien de la très sainte Trinité. Un seul Dieu, trois personnes. La nature divine est unique, trois personnes. Comment ça peut se faire, ça? Et dans le Christ, deux natures et une personne. Quand il s'agit du Christ, le Christ est une personne divine. Il a deux natures, nature humaine, nature divine. Voyez comment les théologiens ont été à l'origine de la distinction de la personne. Il faut leur devoir ça. Les théologiens sont les premiers, à cause de leur foi, qui ont parlé de personne et de nature. Ils ont distingué les deux. Alors, évidemment, la théologie a eu un âge, une période où elle était maîtresse de tout. Et avec le 16e siècle, le 17e siècle, on a eu quelqu'un comme Descartes. Et Descartes a voulu retrouver sa liberté dans sa connaissance humaine. C'est Descartes qui a voulu comprendre la différence entre la foi et puis la connaissance philosophique. La connaissance philosophique ne dépendait que de lui, tandis que sa foi dépendait du Christ et de Dieu. Alors, à partir de là, le problème a été de plus en plus considéré par les philosophes, retrouver leur liberté de philosophe, chercher la vérité. C'est très curieux, ça. Et le mot « personne » a pris un très grand développement. C'est très intéressant de regarder comment on définit ordinairement la personne aujourd'hui. Elle se définit très différemment. Et on a regardé ce que c'était que la nature. Et c'est devenu, alors, en philosophie, un thème très intéressant, la nature et la personne. Quelle est la nature humaine? Vous avez une nature humaine? J'ai une nature humaine. Et nous pouvons nous parler. parce que non seulement nous avons même nature, mais nous avons la même langue française. Je ne suis pas obligé de parler anglais. Mais la langue, ce n'est pas la nature. La langue, le langage, il s'enracine dans la nature, mais il est l'œuvre d'une personne humaine. Comme le vin, il s'enracine dans la nature, mais il y a le travail humain. Comme le pain. Alors on voit, petit à petit, le philosophe a voulu voir et préciser ce qu'était la nature exacte. Le corps et l'âme. Et ce qu'était la personne. Est-ce qu'à l'égard d'un petit enfant qui vient de naître, quand vous le regardez, et vous voulez faire plaisir aux parents en trouvant que cet enfant est unique et qu'il ressemble beaucoup à ses parents, vous ne dites pas « Oh, quelle personne admirable !» Non. Voyez sa nature. Il y a en lui des quantités de choses déterminées et tout ça va se développer de telle ou telle façon. La personne, c'est ce que vous faites de votre capital naturel. Votre capital naturel que vous avez reçu de vos parents, de vos ancêtres, il s'est développé. Il s'est développé de telle manière. Il s'est développé en faisant que vous deveniez une personne intéressante ou une personne banale. Vous voyez, c'est le fruit de votre éducation. Pourquoi vous éduquez ? Pour éveiller en vous votre personne. Et selon l'éducation que vous avez un type particulier de personne. Sur le temps, on verra ça. Les types particuliers de personnes. Un artiste, il a un type très particulier de personne. Un diplomate, il a un type de personne aussi particulier. Le saint religieux, il a une personne très particulière. Mais c'est toujours la personne humaine. Voyez, la personne implique donc le capital naturel que vous avez reçu. Vous n'en pouvez rien. Hein, vous avez reçu ça de vos parents. Ils étaient des génies. Mais ils étaient tellement différents l'un de l'autre que le génie a disparu dans la lutte. Ça existe. Il y a des parents qui sont des génies et qui n'ont mis au monde que des pauvres petits êtres qui se trouvaient mal situés entre deux génies. Et vos parents étaient peut-être des très braves gens, mais qui n'ont pas pu s'éduquer, ou s'ont éduqués peu. Et vous, il y a en vous quelque chose à tout de suite qu'on a remarqué, qu'on a voulu éduquer. Et vous avez développé votre personnalité. Votre personnalité, c'est la vôtre, par où vous êtes distinct de vos parents, par où vous êtes peut-être très proche de votre mère, quant à la nature, et ça se retrouve dans votre personne. Il peut y avoir aussi une très grande différence. C'est donc un problème extrêmement important de comprendre en nous le point de vue de la nature, ce qu'on a reçu. Ce qu'on a reçu des parents. Et puis, la personne. Notre personne que nous avons forgée. Comme nous sommes nés, par exemple, en plein milieu d'une guerre, dans un moment difficile, on a eu une vie difficile à s'épanouir. Ça se ressent. Au contraire, on est né à un moment très facile. Tout était très facile. Les parents avaient en abondance tout ce qu'il fallait. On s'est développé dans la facilité. Et une trop grande facilité. Et on n'a pas compris du tout que la personne devait se conquérir, devait se faire. Voyez donc, le problème de la personne est un problème très actuel. Et un problème très actuel est très propre à notre génie. Nous avons été en majorité éduqués chrétiennement et on a réfléchi un peu sur ce problème. Dieu un, unique, en trois personnes. Le Christ, Marie, Mère de Dieu. Comment Dieu peut-il devenir un petit être de sa propre créature? Et Marie a une forte personnalité. Et elle a une nature très déterminée. Vous voyez tous les problèmes énormes qui sont autour. Et nous avons tous l'expérience de ça. Dans notre famille, dans nos liens avec les personnes qui sont près de nous, qui sont devenues des amis. L'amitié, ça nous fait comprendre ce qu'est la personne, l'ami. C'est pas uniquement la nature. C'est un ami. C'est une personne. Alors, nous allons, pendant ces quelques jours, réfléchir sur ce qu'est la personne. Et si on a le temps, on verra les types particuliers de personnalité. Personnalité de l'homme et de la femme. Ils ont même nature, mais sont deux personnes différentes. Et qu'est-ce qui caractérise l'homme, la femme? Ce qui caractérise le contemplatif, le savant, l'artisan, le politique, c'est toujours la même nature qui se développe différemment.